Donc Joey et Steve, merci d'être avec nous à Micro Rebelle. On a souhaité s'intéresser à la question de la non-mixité pour répondre à cette actualité et les accusations envers les réunions en non-mixité à l'adresse de l'UNEF. Vous, au collectif des coloniales déterminées, vous avez justement fait le choix de militer en non-mixité racisée. Est-ce qu'on peut déjà prendre un petit moment pour rappeler ce qu'est ce collectif des coloniales déterminées?
Du coup, moi, je m'appelle Steve. J'ai rejoint le collectif des coloniales l'année dernière, en février. L'idée du collectif des coloniales déterminées, c'est du coup de militer en non-mixité raciale. La non-mixité, du coup, c'est l'idée de s'inscrire dans un processus d'autonomisation, en fait, d'autonomie politique. Dans l'histoire du monde occidental, les catégories subalternes, les groupes subalternes ont souvent eu à avoir ces moments-là où ces personnes se réunissent entre elles pour pouvoir discuter de leurs conditions matérielles d'existence. Ça s'inscrit dans ce que Christine Défi appelle la théorie de l'auto-émancipation. Ça a été vécu par les personnes, par les féministes, par les femmes. Ça a été aussi expérimenté par le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Comme ça a pu être aussi utilisé dans les groupes LGBT queer, et comme ça l'est très basiquement utilisé dans le milieu prolétaire avec le syndicat, parce que dans le syndicat on n'invite pas le patron, en fait. Bizarrement, quand on fait la grève, on n'invite pas le patron. C'est pas pareil, dans la même logique de s'entourer, de choisir des espaces safe, c'est-à-dire des espaces sécurisants où la parole peut se libérer sans avoir peur qu'elle soit genre parasitée par des personnes, même avec les meilleures intentions du monde, qui sont de groupes majoritaires, de pouvoir aller le plus rapidement possible vers des solutions collectives pour s'émanciper et gagner de l'autonomie.
Merci Steve. Donc moi c'est Joey, je fais aussi partie du collectif des coloniales déterminées. En fait, je fais partie des personnes qui ont un peu créé ce collectif en novembre 2019. Et en fait, on est donc plusieurs personnes racisées à Lille qui sommes parties du constat que les milieux militants d'extrême gauche, dans lesquels nous étions déjà, étaient majoritairement des milieux blancs, en fait. Et donc, nous ne nous y retrouvions pas, et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi de militer en non-mixité, parce que justement nous subissions des rapports de domination à l'intérieur même de ces milieux militants, en tant que personnes racisées, minorisées, altérisées, voilà. Donc c'est parti de ce choix-là, cette non-mixité choisie. Donc comme l'a rappelé très bien Steve, c'est un outil politique, c'est pas du tout une fin en soi. Notre but c'est pas de créer une société ségrégée, racialement. Notre but, c'est de s'empouvoirer collectivement, c'est-à-dire gagner en pouvoir d'agir, c'est gagner en confiance aussi au niveau individuel, c'est aussi créer des espaces, donc comme l'a dit Steve, des espaces safe, sécurisants, qui ne sont pas synonymes forcément de consensus, mais qui sont des espaces assez sécurisants pour que l'on puisse se sentir libre de parler de nos vécus, libre de ne pas avoir ce qu'on appelle une charge raciale, c'est-à-dire cette charge qui incombe aux personnes racisées de toujours prendre sur elles pour expliquer les choses, pour ne pas froisser ce qu'on appelle aussi souvent la fragilité blanche. Donc créer ces espaces-là où on peut libérer la parole, où on peut se sentir écouté réellement, où on peut être entre personnes qui vivront des expériences similaires, et tout ça dans le but, comme c'est un outil politique, la non-mixité, tout ça dans le but aussi de mener une politique antiraciste, en fait, parce que le but, c'est de militer pour une société plus juste, de lutter contre les inégalités raciales. Donc voilà pourquoi nous avons fait le choix de militer en non-mixité choisie et non pas en non-mixité subie, on va dire, parce que dans la majorité des cas, on va dire que beaucoup de groupes minoritaires vivent une mixité qui est subie. Cette mixité subie, c'est souvent aussi un outil, par exemple pour les femmes, ça va être un instrument de domination patriarcale. Et donc nous, on fait le choix justement de contrebalancer ces rapports de pouvoir-là et cette mixité que l'on subit, et et donc de se réapproprier nos vécus, nos identités, de les politiser ensemble, et voilà. Donc, et juste pour terminer également, dans nos textes, on ne parle pas simplement de non-mixité choisie, on parle également de mixité choisie, en fait, puisque finalement, même si l'on est uniquement entre personnes racisées, il existe encore des rapports de domination entre nous, et des dominations internes que l'on règle, que l'on règle entre nous et sur lesquelles on réfléchit régulièrement. Donc c'est pour ça que le terme de mixité choisie est intéressant à ce titre-là.
Et alors, sur quoi se fonde la légitimité de proposer ou d'agir en non-mixité et d'en faire un outil politique? Pour être un peu plus précis, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on met actuellement en cause, la légitimité de ces espaces et de ces moments-là. J'imagine que vous y avez réfléchi et que vous vous sentez légitime pour le faire. Comment vous expliqueriez que c'est tout à fait légitime de le faire?
La légitimité, c'est encore une question de qui décide que c'est légitime, en fait. C'est toujours une question de pouvoir, en fait. Qui a le pouvoir de décider que c'est légitime ou pas? Nous on s'en fiche en fait. Quelque part c'est pour ça aussi que les espaces de non-mixité sont des espaces d'autodétermination, c'est-à-dire que l'on décide nous-mêmes que nous sommes assez légitimes pour choisir cet outil politique de la non-mixité choisie. Et de toute façon, ce qui se passe actuellement avec l'UNEF, c'est ça s'ancre dans une histoire en fait. Puisque là, il y a encore quelques années, il y avait le camp d'été décolonial en 2016 qui a été critiqué. Il y a eu le festival organisé par le collectif afroféministe Moissy. Donc c'est le festival Nyan Sapo qui a été critiqué en 2017. Il y a eu aussi en 2017, la même année, la polémique des deux ateliers organisés par le syndicat d'éducation nationale Sud-Éduc, qui proposait deux ateliers donc en non-mixité entre personnes racisées, donc qui a fait polémique aussi. Jean-Michel Blanquer a même critiqué, dénoncé cette non-mixité à cette époque. Donc en fait, ça s'intègre cette critique-là de la non-mixité, elle s'intègre dans un contexte politique plus général aussi, que je relierai également à la loi contre les séparatismes en fait. Et finalement, ça revient à penser qui a le pouvoir de décider de ce qui est légitime ou pas, sachant que la non-mixité blanche, on n'en parle jamais, quelque part. Les communautés, ce qu'on appelle les ghettos de riches, pour reprendre l'expression du couple de sociologues Pinson-Charlot, qui ont étudié pendant des années les fonctionnements des classes aisées, qui restent entre elles, qui reproduisent justement des schémas sociaux pour conserver le patrimoine, etc. Ça, on n'en parle pas. En fait, on cible en fait toujours, enfin, les dirigeants, les politiciens, ceux qui détiennent le pouvoir ciblent sciemment en fait certaines catégories de la population en fait pour invisibiliser d'autres, comme je l'évoquais là, les ghettos de riches ou la non-mixité blanche, qui est quand même une non-mixité qui n'est jamais questionné en fait.
Ça s'inscrit vraiment dans une séquence historique et dans une vision très française en plus de comment les groupes minoritaires, surtout les groupes minoritaires sur les questions de racialisation ou de racisation, sont systématiquement, pour ne pas dire systémiquement, attaqués en fait dans leur tentative d'autonomisation. Je pense beaucoup au fait que ça me pense en fait à SOS Racisme aussi en fait, dans un sens où quand les personnes racisées en France tentent de se visibiliser, de prendre la parole, de construire un propos autodéterminé, autonome, il y a des tactiques de récupération de la parole. Soit elles sont récupérées, ou il y a des tactiques de disqualification. On se demande beaucoup en fait à quel point en fait pourquoi ces non-mixités étaient là. Pose autant de problèmes quand d'autres non-mixités, en fait, de majoritaires ne sont pas du tout, du coup, questionnées, comme l'a dit Joui, ou quand même d'autres non-mixités minoritaires sont beaucoup moins questionnées dans leur légitimité, en fait. On questionnera beaucoup moins la légitimité de la non-mixité des groupes queer, par exemple. un peu, mais pas tant que ça, je trouve. Pour être une personne LGBT, je pense avoir une certaine, du coup, légitimité, pour reprendre le terme, pour poser cette espèce d'analyse comparative. Je vois aussi ça dans le fait que, par exemple, pour les violences sexuelles et sexistes, le fait que des femmes, des violences sexuelles et sexistes, donc je veux dire, le fait que des femmes aient besoin de se retrouver entre elles pour discuter de leur vécu et pour engager un processus de guérison, ça ne pose pas problème. Enfin, je ne crois pas. Ce que j'ai vu, ça ne pose pas du tout problème, beaucoup moins en tout cas. Là, c'est la question des personnes qui sont racisées défavorablement, qui osent s'organiser entre elles et sans demander l'aval des structures de pouvoir dominantes, sans demander l'aval des groupes majoritaires. Je pense qu'il y a ça aussi qui est en question.
Je me permets simplement de rajouter, puisqu'on en avait parlé avec Steve il n'y a pas très longtemps justement, cette question très sensible de la race aujourd'hui en France justement qui fait polémique. À partir du moment où on utilise le mot race, on devient racialiste. Enfin, on est taxé de racialisme alors que bon voilà, c'est le racialisme, il faut remettre les choses dans son contexte. Et quand même à l'époque au 19e siècle, les vrais racialistes, c'est ceux qui avaient le pouvoir, mais les vrais pouvoirs d'imposer leurs théories et pour justifier des pratiques esclavagistes, coloniales, etc. Donc c'est ridicule aujourd'hui de taxer les personnes qui utilisent le mot race de racialiste, puisqu'on n'a aucun pouvoir d'imposer quoi que ce soit à ce niveau-là. Et donc on disait avec Steve justement sur le ton un peu d'humour que pour par exemple on pourrait très bien faire un test. Proposer des ateliers sur l'antiracisme ouverts à tous et toutes, et là peut-être qu'on se retrouverait effectivement entre personnes majoritairement racisées, alors qu'à partir du moment où on proposerait des ateliers en non-mixité racisée, on aurait forcément une ou deux personnes blanches qui viendraient toquer à la porte pour dire « et moi, ma place, voilà, je veux participer ». Donc c'est ça aussi qui est problématique en fait, c'est que oui, la question de la race fait qu'il y a vraiment un malaise au niveau aussi de ce que c'est que la blanchité, de ce que c'est qu'être blanc en France, en tant que condition sociale, raciale, et non pas en tant qu'individu. Hein, et parce que c'est toujours important de rappeler que nous, on a une analyse de l'antiracisme qui est politique, qui est systémique, et qui est structurelle également, et qui n'est pas individuelle ni morale. Donc c'est pour ça que quand on parle des blancs, on ne parle pas de tel individu blanc ou voilà, c'est les blancs en tant que condition sociale, raciale. Et c'est intéressant de voir à quel point la race structure les comportements et voilà le fait que quand on parle d'ateliers en non-mixité, ben les blancs se sentent exclus quoi, alors que c'est ce que nous on est en tant que communauté minorisée, c'est ce qu'on est en permanence quelque part dans les espaces publics, dans les espaces aussi de représentation. Quand on regarde ne serait-ce qu'un film, en général, c'est pas des personnes qu'on voit comme personnage principal. Donc voilà, c'est ce qu'on vit au quotidien. Et pour l'espace d'un instant où on propose des ateliers, où sont proposés des ateliers en non-mixité, ça y est, ça va frustrer certaines personnes. Blanches parce que voilà, elles sont beaucoup sont tellement habituées à se voir partout et à se sentir légitimes et à leur place partout parce qu'elles sont la norme que pour un instant où on leur propose de ne pas être présente, ça leur pose problème en fait. Et c'est tout ça qui doit être questionné en fait.
Vous faites de la non-mixité un outil politique. Comment on peut passer du fait que des réunions en non-mixité puissent être un moment safe, comme vous l'avez dit, ça permet de faire une pause en quelque sorte dans l'oppression et permettre justement l'expression d'une parole sans qu'il y ait de jugement. Comment on passe de ça à en pratique la non-mixité comme outil politique, puisque c'est ce que vous dites, et comme lutte antiraciste ou post-coloniale.
En fait, les deux ne sont pas à opposer. La non-mixité, elle est plurielle, elle est multiforme. Elle a des conséquences diverses sur les personnes. Donc là, je vais parler en tant que personne racisée. puisque là on parle de non-mixité racisée dans le cadre du collectif décolonial déterminé. En fait, ce qu'on appelle le care, le fait de prendre soin de soi, c'est aussi politique. C'est très politique. Il y a à la fois avoir en tête des objectifs dans les espaces publics, c'est-à-dire porter des revendications antiracistes, lutter contre les inégalités raciales, contre les discriminations, contre des lois aussi. Il y a ça, mais il y a aussi, d'un point de vue individuel, le fait qu'être en non-mixité, ça nous fait tout simplement du bien, quoi. Et je pense que les deux sont pas à opposer, en fait.
C'est intéressant parce que j'étais presque en train de me dire que, qu'on le prône ouvertement ou pas, en fait, ça peut avoir une signification politique, de fait d'assumer tout simplement le fait de faire des réunions en non-mixité. Au-delà de ce que je puis vivre en tant qu'individu, je me re-rencontre à quel point ça participe à un traitement systémique d'un groupe minorisé. Je me rends compte à quel point mon vécu est valide. Je me rends compte à quel point j'ai du pouvoir sur ma vie, j'ai du pouvoir sur mon corps et je l'ai parce que je peux en parler avec d'autres personnes qui ne vont pas remettre d'office en compte mes expériences. C'est le self-care, c'est révolutionnaire en fait, tout simplement. Prendre soin de soi, c'est révolutionnaire. Et c'est comme les différents modes qu'on peut avoir pour militer, en fait. On pense à la grève, on pense à la manif, on pense aux pétitions, mais le fait de prendre soin de soi collectivement, le fait de pouvoir discuter, je sais pas moi, de la dernière série qui nous a fait du bien, le fait de parler de nos vécus personnels, de nos généalogies familiales, il y a énormément de choses qui peuvent paraître anodines, mais en fait, le privé est politique. Et ce qui paraît être le plus anodin est politique. Donc, à la remarque de comment est-ce qu'on passe d'un... Comment nous, on a fait le choix de passer d'une non-mixité qui pourrait être intime et simple et pas forcément revendicatif à une non-mixité revendicatif, j'allais dire, nous, on a juste fait le choix de l'assumer plus visiblement, mais dans l'absolu, ça l'est toujours. Le fait d'être politique, ça l'est toujours.
Je me permettrais de rajouter que... Je reprendrai les paroles d'une afro-féministe, Audre Lorde, qui dit que justement, prendre soin de soi, c'est un acte politique, en fait. Et que c'est vraiment important, surtout quand on est des personnes racisées qui sont en permanence minorisées, déshumanisées aussi, que de prendre soin de soi pour reprendre confiance en soi, récupérer une dignité, une humanité qui nous a été confisquée, en fait. Donc rien que ça, prendre soin de soi, c'est déjà en soi... un acte politique, en fait.
La propagande réactionnaire actuelle taxe ces pratiques de non-mixité, de division, de diviser la société, de racisme sous couvert de racialisation, de fascisme même. Jean-Michel Blanquer a dit ça. Qu'est-ce qu'on peut répondre, en fait, tout simplement à ça et quoi c'est l'inverse qui est proposé?
Déjà, cette réaction, comme tu dis, c'est réactionnaire. C'est-à-dire que c'est une réaction justement à tout un mouvement qui est en train un peu de prendre, j'ai l'impression, en France. Et du coup, notamment depuis le Black Lives Matter, le mouvement Black Lives Matter de juin 2020, suite à la mort de George Floyd aux États-Unis. Et j'ai l'impression qu'il commence à y avoir une parole politique au niveau de l'antiracisme en France, une prise de conscience aussi de l'importance de la race dans les structures et dans nos relations sociales, en fait. Et finalement, tous ces discours-là qui taxent les personnes qui utilisent le mot race, de racialiste, c'est des réactions conservatrices, en fait. Et c'est des réactions qui témoignent d'une certaine peur face des discours qui sont en train de combattre des rapports de pouvoir. En fait, c'est des personnes finalement qui veulent conserver leur pouvoir et leurs intérêts et leur blanchité quelque part, en fait. Et du coup, tout simplement, désolée, je me suis un petit peu éloignée de la question, mais tout simplement dire que ce sont des personnes qui ont peur de mots, en fait. Et moi, la question, c'est est-ce qu'il faut avoir peur des mots ou de la réalité? Je pense qu'il ne faut pas combattre les mots en tant que tels, mais c'est la réalité. Et il faut pouvoir la désigner, il faut la nommer, cette réalité. Et pour ça, ne serait-ce que des mots comme race, pour moi, c'est important de les utiliser, en fait. On ne peut pas se contenter de termes qui euphémise les réalités comme par exemple ethnie. Ethnie, ça veut rien dire, ethnie, quand on y pense. Parce que ne serait-ce qu'en Chine, il y a une cinquantaine d'ethnies qui existent. Pour autant, les personnes d'origine chinoise, de n'importe quelle ethnie qui vont se retrouver en France, vont être ce qu'on appelle asiatiqueté, c'est-à-dire perçues comme asiatiques d'un point de vue racial, et en fonction d'une certaine forme d'yeux, de visage, etc. Et du coup, peu importe leur ethnie, elles seront racisées asiatiques. Donc ça ne veut rien dire le mot ethnique, d'une part. Ensuite, le mot couleur de peau, ça ne veut rien dire non plus, quelque part. Enfin, c'est hyper, hyper biologisant, en plus, de dire ça, comme si le racisme, comme si le seul référent du racisme, c'était le phénotype, en fait. Alors qu'on sait très bien que le racisme, il peut être aussi culturel, il peut aussi être religieux, notamment avec l'islamophobie, ou, voilà, c'est pas le seul, le seul référent. Et ceux qui ont le pouvoir de dire que ces mots sont racialistes ou enfin voilà, c'est ceux qui nous dépossèdent quelque part d'outils d'analyse, en fait. Ils nous dépossèdent d'outils d'analyse pour essayer de comprendre des réalités qu'on vit au quotidien et que eux ne vivent pas, en fait. Les blancs ne vivent pas de racisme, hein. Faut arrêter de croire que le racisme anti-blanc existe. Ça, c'est aussi une conception qui a été créée dans les années 80 avec des discours de Le Pen qui parlait à l'époque de racisme anti-français, quoi. Donc c'est un concept d'extrême droite qui a gagné beaucoup les discours, les imaginaires en France. Et du coup, comme souvent les pouvoirs sont blancs, c'est-à-dire que c'est principalement des personnes blanches aussi qui tiennent ces discours conservateurs réactionnaires et qui nous taxent d'être des racialistes quand on utilise le mot race, c'est parce que voilà, ils cherchent aussi quelque part à nous déposséder de mots qui sont pour nous des outils d'analyse très importants pour révéler nos réalités, quoi.
Et justement, les espaces en non-mixité ne sont pas des espaces essentialisés. Je ne sais pas si ça peut se dire de dire ça comme ça. Comment faire justement pour éviter que le critère soit biologique?
Bah justement, on n'est pas racialiste. Le racialisme, c'était ce mode de pensée français qui consistait à créer des catégories biologiques, notamment avec des sciences comme la craniotomie, je crois, par exemple, où on disait que les hommes blancs avaient des cerveaux plus grands que les personnes non blanches et les femmes, d'ailleurs. Et c'est l'idée de rappeler, comme l'a dit Jouy, que c'est des constructions, en fait, que c'est politique, que ça a une histoire, en fait. Une oppression, ça a une histoire, ça concerne des individus, ça concerne une histoire, ça concerne des strates de la société, ça concerne des rapports aux institutions. Et quand on parle du coup de race, on parle en fait d'ailleurs de racisation ou de racialisation, c'est-à-dire que comment en fait nos corps sont catégorisés et ont été altérisés historiquement, qu'on le veuille ou non, et comment en fait ça a imprégné l'État français, comme ça a imprégné les imaginaires en France. Ça a imprégné cette histoire-là. Et du coup, quand du coup on veut essayer d'éviter les critères biologisants, c'est faire comprendre que quand on parle de race, c'est de race sociale. C'est un rang social, en fait. C'est comment on est placé dans l'échiquier sociopolitique en France. Comment, en fait, ça affecte nos conditions matérielles d'existence. Je suis pas noir parce que ma peau est plus blanche que toi, Luc. Je suis noir parce que ma mère est née en Angola, et que j'ai peut-être des traits phénotypiques qui le rappellent, mais c'est un rang social derrière. C'est une culture derrière, en fait. C'est tout ça, c'est un mélange de tout ça. Jack Segala, par exemple, il peut être plus noir de Bourgois, mais il n'est pas noir. On ne le verra jamais comme étant noir. Et il ne se considérera jamais comme étant noir, d'ailleurs, au passage. Ce sont des constructions sociopolitiques et socioculturelles, on pourrait dire. Et c'est de là dont il faut partir. L'enjeu dans tout ça, c'est de faire comprendre que ce sont des constructions, du coup, qu'on peut déconstruire. Et qu'on peut après dépasser. Parce que justement, c'est pas essentiel, donc on peut les dépasser. Mais ça implique de prendre ça comme des constructions politiques.
La race est avant tout une construction sociale, une construction de pouvoir, une construction historique qui évolue dans l'espace et dans le temps, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui ont été racisées à une période de l'histoire et qui ne le sont plus, qui ont été blanchies. Je pense notamment aux communautés italiennes à la fin du 19e siècle en France. Ensuite, il y a eu les populations immigrées de polonaises, par exemple, les communautés polonaises aussi, à un moment donné, étaient racisées, altérisées, minorisées en France. Et du coup, c'est des communautés qui ont été blanchies avec le temps. Il faut sans cesse rappeler que la race, c'est une construction sociale, une construction de pouvoir qui évolue dans l'espace et le temps. Que l'expérience de racisation en France n'est pas forcément la même qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays dans le monde. Et que oui, c'est n'importe quoi de dire que la race est biologique. Quand on utilise le terme race, à aucun moment on ne pense à la race biologique. On sait très bien qu'il n'y a pas de race biologique et que dès le départ, chez les racialistes, il s'agissait de construction sociale pour légitimer des pratiques, notamment, comme je disais tout à l'heure, des pratiques de colonisation ou pour légitimer, par exemple, la traite esclavagiste, quoi. Donc, c'est pas du tout une race biologique. Et justement, donc, tout à l'heure, je sais pas si j'ai été claire là-dessus, mais pour moi, couleur de peau, au contraire, là où on l'utilise énormément en France, on a l'impression que, voilà, c'est... On parle de racisme, des différentes couleurs de peau, etc. Pour moi, c'est un terme biologique, la couleur de peau. Pour moi, c'est vraiment biologisant, pour le coup. Et en utilisant ce terme-là, j'ai l'impression qu'on s'inscrit vraiment dans les théories racialistes qui hiérarchisaient en fonction des couleurs. Il y avait le blanc, il y avait rouge, il y avait jaune, il y avait noir. Et en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on continue d'utiliser un terme, couleur de peau, qui est ultra-biologique, ultra-biologisant, et qu'au contraire, on n'utilise pas un terme comme celui de race, qui au contraire est une construction sociale. Donc je pense qu'il faudrait vraiment, le langage est vraiment à questionner en fait.
Je reviens à la polémique actuelle. Il y a une espèce de tour de force, c'est que ces élites à la tête de l'État et d'un État... où le racisme fait système, arrive à se faire passer pour des victimes de discrimination, discriminées par les discriminés.
Il suffit de dire, mais qui a le pouvoir, en fait. Enfin, en fait, des fois, c'est pas compliqué de penser comment penser un système, comment il fonctionne, etc., ses mécanismes. Il faut essayer de penser avec des termes simples, les rapports de pouvoir, quels sont les intérêts aussi. Il y a toujours une question de ceux qui ont le pouvoir ont des intérêts à défendre, en fait. Et moi, j'ai envie de répondre à ces gens-là qui disent « oui, on est discriminés, etc. » Des gens qui ont le pouvoir, qui a le pouvoir de passer des lois? Qui a le pouvoir d'être la norme, d'être représenté partout dans les médias, d'avoir la parole, etc., et de diffuser ses idées? Il faut simplement questionner en fait et retourner la question, mais qui a le pouvoir finalement? Qui a réellement le pouvoir de mettre en place des politiques aussi de discrimination?
Karim, tu veux parler? Toi qui nous rejoins en cours de route?
Ouais, salut. Mais ça me faisait penser aussi à comment la lutte antiraciste est menée en France en fait, et comment des structures ou des associations comme SOS Racisme, la LICRA, tout ça, elles arrivent à monopoliser cette lutte et arrivent à plus ou moins légitimer en fait ce terme de racisme anti-blanc, et ça questionne du coup l'antiraciste, on va dire institutionnel et on va dire légitime du point de vue de l'institution de l'État, elle est menée par qui? Elle est menée par des structures blanches qui en fait s'opposent à toute construction d'un antiracisme, on va dire par nous, enfin par les concernés, d'un antiracisme politique, quoi, autonome. Du coup, en fait, c'est carrément pas étonnant qu'il y a des termes comme le racisme anti-blanc ou comme tu dis, les discriminés seraient discriminés par les discriminés, enfin les dominants seraient discriminés par les discriminés, puisque en fait, eux, ils ont pas intérêt en fait à ce que des concernés eux-mêmes, en fait, des militants antiracistes développent un antiracisme pour eux et autonome, quoi. Enfin, c'est carrément pas étonnant le racisme anti-blanc. Je sais pas si ça a été dit, mais ça a été plus ou moins légitimé. Je sais plus, c'est la LICRA ou SOS Racisme, mais c'est un des deux en fait qui l'a légitimé, ce truc-là. C'est passé en justice en fait. Ils avaient réussi à faire condamner je sais plus quelle personne ou quoi pour racisme anti-blanc. À partir de là, je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Hein. Enfin, moi, ça m'étonne carrément pas en fait.
Dans une autre langue, on dit pas racisme anti-blanc, on dit reverse racism. Reverse racism. Racisme inversé. comme l'a dit Joey, c'est le racisme, c'est une relation de pouvoir, c'est qui a le pouvoir. Donc on sait très, enfin, c'est presque un non-débat en soi ou un non-concept en soi. C'est comme l'hétérophobie, c'est comme, je sais pas moi, le, c'est quoi la misandrie qu'on dit pour les féministes. C'est comme la haine anti-riche. C'est des, du vocabulaire et de la rhétorique réactionnaire qui vise à disqualifier les quand des groupes minoritaires tentent de construire du propos militant, quand on va construire de l'action militante, quand on va construire un rapport de force qui va en la défaveur des groupes dominants, quoi. C'est, voilà, c'est tout simplement ça. Et quand, qu'est-ce qu'il faut leur répondre? Il faut leur répondre, bah, ça ne marche pas et les sciences nous donnent raison, l'histoire nous donne raison. Il y a juste le rapport de force qui est encore, on va dire, un peu en faveur des gens qui voudraient savoir ce genre de propos, mais la sociologie ne reconnaît pas le racisme anti-blanc. Lorsqu'une personne traite une personne manche de sale blanc, c'est pas une agression raciste, c'est une agression à la limite. Mais c'est pas une agression raciste, par exemple.
Bien, merci beaucoup, Joey, Steve, Karim, qui nous a rejoint sur la fin. Que je rappelle que vous faites partie du collectif Décolonial Déterminé, où est-ce qu'on peut vous retrouver?
Le collectif Décolonial Déterminé est joignable sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, par exemple. Nous avons une page sur laquelle nous avons la possibilité de recevoir des messages en privé et on peut du coup après se retrouver pour parler, discuter, changer le monde et prendre soin de nous aussi.